au rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Au sommaire de cette édition, trois rendez-vous. Un rendez-vous littéraire autour de revues, une histoire de la NRF de Alban Cerisier, un appel de la revue Esprit à propos du financement des revues et un regard sur l'historien et surtout sur l'écrivain, pardon, Sebald, W.G. Sebald, dont les éditions Actes Sud viennent de publier deux livres, Lit d'entretien, l'archéologue de la mémoire et des textes qui étaient inédits, sortis après sa disparition, Camposanto, aux éditions Actes Sud. Deuxième temps de cette émission, un temps musical autour de Kardeş Türküler, groupe turc qui n'a pas cessé de chanter les minorités, notamment les minorités arméniennes, pour faire le lien avec un grand débat d'idées de cette édition à travers les relations turco-arméniennes avec Cengiz Aktar depuis Istanbul et Jean Kayan depuis Marseille. Alors, premier rendez-vous littéraire. Rendez-vous littéraire autour de revues pour commencer. Et à tout seigneur, tout honneur, cette grande revue qui a été et qui est toujours la NRF, la Nouvelle Revue Française. Alban Cerisier publie donc chez Gallimard, NRF Gallimard, puisque les éditions Gallimard doivent leur origine, ont leur origine à travers cette NRF, ce que raconte fort bien Alban Cerisier. Il faut dire que nous sommes cette année au 100e anniversaire de cette revue littéraire. Peut-être pour commencer, donner à lire le texte d'ouverture de ce magnifique livre qui commence ainsi. Ici, la littérature a tous les droits. Rien ne lui est opposable, ni la religion, ni la politique, ni les mœurs, ni la morale, ni la tradition, ni la mode. La parole de l'écrivain y est impunie parce que insoumise et irresponsable. Peu importe qu'elle soit considérée comme un don ou un effort, une aptitude ou une discipline, l'effet d'une grâce ou d'une règle conventuelle librement choisie, seul compte l'intensité d'écriture et son pouvoir de révélation, cette singularité dans l'ordre de la connaissance et du discours qu'on lui accorde. Donc, la littérature a tous les droits dans la NRF. Alban Cerisier raconte par le menu comment cette revue, née sous l'inspiration d'André Gide, avec un premier groupe fondateur, avec notamment Schlumberger, Guéon, Ruyters et quelques autres, et notamment Coppo, a pris forme juste avant la guerre de 14. Et puis, comment l'arrivée de Gaston Gallimard, qui petit à petit a, selon un des termes des chapitres, a fait une sorte de coup d'État, mis la main sur la revue, en même temps a permis à cette revue de se déployer. Comment Jacques Rivière, qui a été un des premiers grands directeurs de la revue, a joué un rôle majeur. Et puis Jean Pollan, qui a été son secrétaire éditorial, qui après a pris la succession de Rivière. On suit la NRF dans le grand moment des années 20, des années 30, cette période si controversée durant la guerre où Drieux-La Rochelle, à l'instigation de l'armée allemande, a pris la direction de la NRF, car les Allemands avaient conscience du poids, du pouvoir absolument considérable, symbolique, du pouvoir intellectuel que représentait la NRF. Pendant un certain nombre d'années, compromise justement par ces années de guerre, la NRF n'a pas paru et ensuite elle a été relancée dans l'après-guerre, toujours autour de Pollan qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire reparaître la NRF, lui qui avait joué un rôle important dans la résistance. Jusqu'à aujourd'hui, on a des éléments sur la Nouvelle Revue Française. Donc un livre vraiment majeur qui est prolongé justement par des éléments très concrets sur comment la NRF en chiffres, comment elle a existé à l'étranger avec ses éléments de diffusion. Pour vraiment tout savoir sur l'histoire de la NRF, Alban Cerisier aux éditions Gallimard. Alors c'est bien de célébrer les grandes revues historiques, de fêter un 100e anniversaire comme c'est le cas, mais aujourd'hui on peut être inquiet sur la situation des revues. Bon nombre de librairies, en particulier la FNAC ou Virgin, ne veulent plus prendre de revues, quand on sait que les revues sont des laboratoires d'idées, et en même temps les lieux de financement des revues comme le Centre National du Livre réduisent considérablement leur aide aux revues. Et donc je voudrais me faire l'écho de cette lettre ouverte sur la place des revues généralistes et l'intérêt général que la revue Esprit adresse à Madame Albanel, messieurs Sarkozy, Hiver et Kouchner, après des mesures discutables émanant d'institutions publiques et concernant entre autres Esprit. Et on voit effectivement à travers cet appel, Esprit revendique une culture généraliste dans un monde spécialiste, et effectivement nous sommes d'abord choqués par l'absence de sérieux des décisions prises à la va-vite, où des revues comme Esprit ou Études sont considérées comme des entreprises parmi d'autres, comme si des biens culturels étaient des biens marchands comme les autres. Donc on voit effectivement que les revues sont célébrées historiquement, c'est le cas, ça a été le cas beaucoup à Marseille autour des Cahiers du Sud, alors que bon nombre d'institutions n'aidaient pas cette revue qui aujourd'hui reste célébrée comme le lieu majeur de l'écriture et de la littérature à Marseille, à travers Jean Ballard, Audizio, Brocquier et bien d'autres. On célèbre l'histoire de la NRF, mais on ne se préoccupe pas beaucoup de la réalité des revues contemporaines qui ont besoin de trouver leur public, qui ont besoin de relais, qui ont besoin du soutien des librairies. Et ce n'est pas un plaidoyer pro-domo, simplement prendre conscience que les revues, c'est un lieu d'émergence, c'est un lieu où des textes nouveaux apparaissent, où des écrivains font leurs premières armes, et c'est souvent à partir de là que l'histoire littéraire change. Et bien, c'était le cas pour l'histoire de la NRF, et c'est le cas pour bien d'autres revues. Deuxième référence, moment littéraire aujourd'hui, à travers un très grand écrivain allemand qui a passé l'essentiel de sa vie en Angleterre, W.G. Sebald, qui les éditions Actes Sud n'ont pas cessé de publier à travers ses grands romans que sont Les Émigrants, Les Anneaux de Saturne, ou un de ses derniers livres, Austerlitz. Et donc Sebald, qui était un écrivain assez mystérieux, dont on connaissait peu d'éléments de sa vie, ses derniers textes nous permettent de comprendre un peu mieux qui il était à travers ses livres d'entretien, L'archéologue de la mémoire, Conversation avec Sebald, et également avec un très beau texte qui touche le monde méditerranéen, Campo Santo. Donc trois textes inédits qui étaient un peu les éléments du nouveau livre que Sebald était en train d'écrire, mais il est mort brutalement il y a quelques années d'un accident de voiture en Angleterre. Et les trois textes que donne ce livre, Campo Santo, nous permettent de saisir l'acuité, la beauté, la délicatesse de Sebald. Là aussi, pour entendre la langue d'un écrivain, rien de mieux que de lire un court fragment donc, qui ouvre ce livre, Campo Santo, petite excursion à Ajaccio. Un jour du mois de septembre de l'année dernière, lors d'un séjour de 2 semaines sur l'île de Corse, j'ai pris un autobus bleu d'une ligne régulière pour descendre à Ajaccio et flâner un peu dans cette ville dont je ne savais rien, sinon que l'empereur Napoléon y a vu le jour. C'était une belle journée radieuse. Les branches de palmiers de la place du maréchal Foch remuaient légèrement dans la brise venue de la mer. Il y avait dans le port un bateau de croisière blanc comme neige, tel un grand iceberg, et je me promenais par les ruelles avec le sentiment d'être libre comme l'air. Je pénétrais dans l'une ou l'autre des sombres entrées de maisons semblables à des galeries de mines. Je lisais avec une certaine piété les noms des inconnus sur les boîtes aux lettres de fer blanc, et j'essayais de m'imaginer habitant l'une de ces forteresses de pierre, sans autre occupation jusqu'à la fin de mes jours que l'étude du temps passé et du temps qui passe. Mais comme aucun d'entre nous ne peut sereinement rester face à face avec soi-même, et comme nous devons tous avoir toujours des projets plus ou moins sensés, le fantasme qui venait de naître en moi, passé quelques dernières années sans la moindre espèce d'obligation, fut bientôt refoulé par le besoin de remplir l'après-midi d'une manière quelconque et donc, sans savoir comment, je me retrouvais dans le hall du musée Fesch, tenant à la main un carnet, un crayon et un billet d'entrée. Voilà quelques lignes d'ouverture de ce texte de Sebald que je vous invite très fortement à découvrir. C'est un petit joyau et il est suivi de nombreux essais de Sebald, car c'était également un très grand critique littéraire. Au rendez-vous de midi, séquence musique avec un groupe bien connu en Turquie, Kardeş Türküler, groupe qui s'est notamment fait connaître par sa faculté à chanter dans toutes les langues qui composent ce pays, et non pas simplement la langue turque, mais Kardeş Türküler a chanté en kurde, en laze, et notamment aussi en arménien, ce qui évidemment, dans le contexte souvent très nationaliste de la Turquie, a provoqué pas mal de débats. Groupe né autour de jeunes universitaires de l'université du Bosphore, Boğaziçi. Donc nous entendons un premier morceau extrait de l'album Bahar, un album important de Kardeş Türküler, et cette chanson est une chanson qui célèbre une fête pré-chrétienne arménienne, Eskişehir Amparzum. Kardeş Türküler, extrait de Bahar. Kardeş Türküler, à qui d'ailleurs on doit le générique de cette émission au rendez-vous de midi. Deuxième morceau de Kardeş Türküler, extrait d'un autre album, Dogu, qui est une chanson arménienne, Bingöl Ermeniçe. Kardeş Türküler qui nous donne à entendre chanter en Turquie, en arménien, donc Bingöl Ermeniçe. Bonjour, au sommaire aujourd'hui de cette émission Rendez-vous de midi, un débat d'idées autour de la relation Turquie-Arménie à partir de Marseille. Marseille, l'arménienne, comme citait l'hebdomadaire L'Hebdo à Marseille, avec une communauté forte de 80 000 membres, où évidemment donc la question arménienne se pose avec une très grande acuité, et un débat autour de ce qui aujourd'hui se joue, se déplace, la discussion prend un nouveau tour sur bien des aspects. Donc pour participer à cette discussion, depuis Istanbul, Cengiz Aktar, bonjour.
Bonjour.
Donc Cengiz Aktar est universitaire et notamment membre fondateur de la fondation Randink. À Marseille, Jean Caillan, bonjour.
Bonjour.
Donc Jean Caillan, écrivain, journaliste, agitateur d'idées, on peut dire ça comme ça, qui à Marseille...
Dans le bon sens, j'espère.
Absolument, qui à Marseille a essayé justement de déplacer les lignes. Peut-être que j'aimerais qu'on parte de notre discussion au fond sur... une belle personne que vous avez bien connu l'un et l'autre, qui est donc Randink. Peut-être Cengiz Aktar, quelques mots sur Randink avant que je pose la question également à Jean Caillan. Qui était Randink quels étaient vos liens avec lui, Cengiz Aktar?
C'était un grand ami, je crois que c'était un martien en fait.
C'est-à-dire?
Il n'était pas d'ici, ce garçon. Franchement, il était tellement particulier. Il était, vous savez, il avait des problèmes avec la diaspora, par exemple. On lui reprochait un tas de choses. Idem avec les Turcs nationalistes. Il était détesté, bien sûr. Mais il avait une façon de faire, une façon de dire les choses qui était réellement exceptionnelle. Et quand il a été assassiné, franchement, c'est une catastrophe innommable pour moi, personnellement.
Quand est-ce qu'il a été assassiné?
Le 19 janvier 2007.
On peut-être dire quelques mots de qui il était exactement. C'est un journaliste, rédacteur en chef du journal Agos, c'est bien ça?
Voilà, il a été assassiné de devant son journal, d'ailleurs, par plusieurs types, apparemment. Mais bon, c'était une époque plein de désespoir, je dirais, mais qui a fini par, un peu à son image, n'est-ce pas, à tourner en espoir. Et il s'est passé tellement de choses entre Arméniens et Turcs depuis que je ne peux pas ne pas y voir la main de Rand.
Ben justement, on va parler de ce qui s'est passé justement depuis son assassinat et de ces changements qui ont lieu dans la relation entre Arméniens et Turcs. Jean Caillan, Randink, c'était qui pour vous?
Rand avait 10 ans de moins que moi et en fait c'était mon grand frère. Parce que quand j'étais devant cet immense personnage sur tous les plans, aussi bien sa stature que ses certitudes, sa façon de parler, j'avais l'impression d'être un petit garçon et je l'écoutais religieusement et de façon scolaire.
Donc pour vous, c'est aussi quelque part un martien aussi, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une aura, une dimension.
Je dirais pas ça, tout simplement parce que dans une vie antérieure, j'ai été en contact pas mal avec les dissidents soviétiques, dont Boukovski, Solzhenitsyn, Leonid Plutch, et qu'ils faisaient partie exactement de la même catégorie de gens, c'est-à-dire de ces gens qui disent « les seuls combats qu'on est sûr de pas gagner, c'est les combats qu'on ne mène pas ».
Et il n'a pas arrêté d'en mener des combats.
En particulier en créant Agos. Je crois que l'acte fondateur d'Agos, qui était de faire savoir aux Turcs, qui ne le savaient pas, parce qu'on ne leur avait pas appris à l'école, ce qu'était ce qu'il appelait la douleur arménienne, et ce qu'on appelle maintenant la douleur arménienne, la grande catastrophe, parce que le mot de génocide est toujours tabou, et de toute façon, c'est pas de la sémantique qui entre en ligne de compte. Mais je crois qu'il a été un homme qui a bouleverser l'image de la Turquie moderne.
Alors, Jean Caillan, puisque pour parler de cette relation, notamment à partir de Marseille, vous m'avez expliqué que vous l'avez invité, Randink, à Marseille, arménien de Turquie, et que quand il est venu à Marseille, il y a quelques années, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été accueilli les bras ouverts par ce qu'on appelle la communauté. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Mais écoutez, j'ai pris sur moi de le faire venir à Marseille, lui, Étienne Marchoupian, qui est son successeur à Agos, Ali Bayram Orlou, qui parle très bien français, qui est venu aussi. Et c'était dans le contexte de la Turquie, l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Il est venu à Marseille et la communauté arménienne officielle a fait le soir du débat un contre-débat en disant boycotter la Hrant, boycotter cette soirée-là qui est organisée par des gens non représentatifs. Et je me souviens que malgré cet interdit, évidemment beaucoup de gens sont venus, la salle de l'Alcazar était pleine à craquer, il y avait des gens, des Arméniens, des gens de la communauté arménienne qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils disaient, mais qui sont venus l'écouter. Et évidemment, lorsqu'il a été assassiné, tout le monde l'a récupéré et c'était un héros. Mais un proverbe arménien qui dit « va mourir et on t'aimera ». Et c'est exactement ça. Hrant est devenu un héros à partir du moment où il était mort. Mais jusque-là, tout ce qu'il disait sur l'entrée de son pays, parce que son pays c'était la Turquie, dans l'Europe, le nécessaire dialogue entre Turcs et Arméniens démocrates, tout ça est devenu aujourd'hui réalité.
Alors justement, Cengiz Aktar, vous êtes un de ces acteurs qui ont fait bouger les lignes dans la relation entre Turcs et Arméniens. Encore quelques mots sur Randing, parce que j'ai le sentiment que la très grande manifestation à Istanbul au moment de son enterrement a peut-être été un acte fondateur de quelque chose qui s'ouvre dans la société turque par rapport au discours nationaliste, à cette vision très moniste, très fermée, et que là quelque chose d'autre, une autre type de parole a pu émerger dans l'espace public. Cengiz Aktar.
Il y avait entre 100 et 200 000, on sait jamais, on n'a jamais su combien de personnes qui marchaient derrière.
Donc, derrière quoi d'ailleurs? Je crois qu'il y avait un très beau, il y avait un très beau, de très belles affiches, je crois, non?
Oui, oui, tout à fait. C'était une journée exceptionnelle, mais c'était plein de désespoir, je dois dire. Et de là, la vie a repris ses cours, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et on n'a pas oublié, d'autant plus que le procès traîne, je vous signale.
On a identifié les assassins, mais le procès n'a toujours pas.
Un assassin, mais enfin, c'est un homme de main. Il y a toute une bande de criminels derrière, dont certains sont en tôle en ce moment. Mais on refuse toujours de faire le lien entre l'assassinat de Hrant et le grand procès gang de nationalistes, si vous voulez.
Ce qu'on appelle l'état profond en Turquie, c'est ça?
Voilà, voilà. Et on refuse toujours de faire le lien. Alors, le lien, c'est évident. Mais bon, on y arrivera. Entre-temps, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc la vie a repris ses droits. Eh bien, il y a eu ce voyage historique quand même du président de la République. Le président turc n'a pas les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que le président français, je rappelle. Mais quand même, c'était très important.
Un acte symbolique majeur. Vous parlez de quelle visite?
Il est allé voir un match de foot entre les équipes nationales turques et arméniennes.
En Arménie?
C'est en Arménie, à Yerevan. C'était la première fois que ça arrivait depuis la création de la petite Arménie. Donc c'était quelque chose d'inouï et qui est venu. Le débat a repris en Turquie. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre. Et puis on est arrivé à cette campagne de pardon.
Alors justement, j'aimerais bien, Cengiz Aktar, que vous nous disiez quelques mots de cet appel, puisque vous êtes un de ceux, j'aimerais bien d'ailleurs que vous expliquiez quels sont les autres, qui ont lancé cet appel pour demander pardon au nom de la grande catastrophe et pas du génocide. Donc c'est peut-être un débat historique que nous allons avoir ici. Quelques mots donc sur cet appel, sur les signataires, sur le sens de cet appel, qui change quand même pas mal les choses, vu d'un point de vue turc.
L'idée m'en est venue pratiquement le jour de la mort de Hrant. Et je me suis dit, il faut maintenant faire quelque chose. Il y a eu dans
c'est une fidélité à son esprit, d'une certaine façon.
Pardon?
C'est une fidélité à son esprit.
Oui, voilà, en quelque sorte. Mais bon, il s'est passé que donc il fallait faire quelque chose d'exceptionnel, un peu à l'image de Hrant, si vous voulez. Et c'était Et dans le temps, il y a des gens qui sont excusés individuellement. Mmh. Il y a eu des demandes de pardon d'individus. Mais là, il fallait viser grand. Il fallait toucher le grand public. Et c'est ça qu'on a fait à travers donc, les moyens modernes.
Alors, quelle est cette initiative, quelques mots, parce que tout le monde, évidemment, ne la connaît pas.
Consiste, c'est trois lignes qu'on a concoctées, mais il nous a fallu des mois pour l'écrire, je dois avouer. C'était pas évident de se mettre d'accord sur les mots.
Sur les termes, oui, chaque mot compte.
Voilà ce que dit le texte en français. Ma conscience ne peut accepter que l'on reste indifférent à la grande catastrophe que les Arméniens ottomans ont subi en 1915 et qu'on la nie. Je rejette cette injustice et pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon. Voilà un texte qui a été lancé, donc l'idée me revient. J'ai regroupé autour de moi des amis, Baskı Noran, Ali Bayramoğlu et Ahmet İnsel, et Nilüfer Gölé à Paris. Et on est allé de l'avant, très vite, on a atteint des chiffres inimaginables.
Alors quelle est l'ampleur de la campagne de signature aujourd'hui ?
Bon, aujourd'hui, on est à 2 mois à peu près, on est au moment même où l'on parle, on est à 29 258 signatures.
Alors les réactions, je crois, ont été assez vives, et je pense notamment à celle du Premier ministre Erdogan à propos de ces supposés ou soi-disant universitaires qui auraient signé cet appel.
Voilà. Bon, il y a eu évidemment une furie innommable au départ et des injures et menaces de mort pleuvaient. Bon, ça s'est calmé maintenant. Il faut dire que la Turquie, ni aucun autre pays d'ailleurs, n'a l'habitude de ce genre de pétitions qui durent longtemps. Alors nous, notre intention, c'est d'aller jusqu'à juin au moins, sinon la fin de l'année. On attend en tout cas que il y a des élections locales en Turquie le 29 mars, il faut que ces élections se déroulent et on verra après. Mais on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, donc la contre-réaction s'est calmée un peu. La contre-réaction d'ailleurs, enfin la réaction nationaliste a créé 11 sites, 11 exactement, pour dire non, on ne s'excuse pas. Bon, c'est pas la peine de créer des structures pour ça. On savait qu'ils ne s'excusaient pas, qu'ils ne s'excuseraient pas. Bon, toujours est-il que un tabou a été brisé.
Il y a quelque chose qui change un peu dans la donne de la perception en Turquie.
Quiconque aujourd'hui parle du génocide arménien ou de la grande catastrophe ou de ce qui est arrivé simplement au peuple arménien qui vivait en Anatolie pendant 4000 ans, n'est-ce pas, qui a vécu et qui n'y vit plus, n'est-ce pas, il doit tenir en compte maintenant, c'est 30 000 Turcs qui ont signé cet appel, qui ont participé à ce pardon en leur nom propre, n'est-ce pas, il va falloir compter avec.
C'est
prouvé par A plus B que la propagande qui dure depuis maintenant 93-94 ans, elle n'a pas tenu.
Donc c'est un acte majeur de reconnaissance. Alors j'aimerais, Jean Caillon, que vous nous disiez un peu quelle est votre lecture de cet appel, comment vous réagissez, comment vous l'avez lu, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui. Est-ce que de votre point de vue, ça change les lignes du débat dans les relations turco-arméniennes? Jean Caillon.
À vrai dire, dès que j'ai lu ce texte, je n'ai eu qu'un souci, c'était de téléphoner à mes amis à Libération pour leur dire « je voudrais vous proposer une lettre ouverte à mes frères turcs, considérant que les 30 000 signatures de la pétition sont mes frères, puisque moi je suis, mes parents sont originaires d'Anatolie, et que s'il ne s'étaient pas déroulés les événements que l'on sait au début du siècle, ben aujourd'hui je ne serais pas derrière cette radio, mais je serais anatolien. Donc ma deuxième patrie, c'est la Turquie, qu'on le veuille ou non, et je me sens beaucoup plus chez moi quand je suis à Istanbul que quand je suis à Yerevan. Donc tout ça est d'une très très grande complexité et beaucoup d'arménie arméniens de France qui pensent la même chose n'osent pas le dire.
Mais pour vous, ça a été un acte très important, alors
Pour moi, c'est terrible à dire, de dire de quelqu'un qu'il n'est pas mort pour rien, mais quand j'ai vu ce texte, court, mais qui disait bien ce qu'il voulait dire, je me suis dit, mon ami, mon frère Hrant n'est pas mort pour rien. Et j'ai horreur de dire cette phrase, parce qu'on meurt toujours, c'est toujours une mort d'homme et toujours une tragédie abominable, mais vraiment, c'est vrai que là, quand j'ai vu cette lettre publiée, je me suis dit, Hrant, on va continuer à en parler tout le temps, et on voit ici des rues Hrant, des écoles baptisées Hrant. Nous-mêmes, au Club de la Presse que j'ai l'honneur de présider, nous avons créé un prix international de la parole libre dédié à Hrant Dink et à Anna Politkovskaya, qui, d'une certaine manière,
sont très proches
de Destin, bien que l'une vive dans un pays quasi totalitaire, post-soviétique, et l'autre vivait dans une démocratie, comme disait...
militarisée.
Voilà, une démocratie qui n'est pas à l'image de ce qu'on pense d'une démocratie, mais qui est quand même, qu'on le veuille ou non, pas un État totalitaire, parce que sinon, tous les gens...
Sinon, ce genre d'appel n'aurait pas lieu.
Tout simplement, oui, les gens n'auraient pas eu. Et je trouve le nombre de signataires tout à fait important, dans la mesure où, pour m'être bien baladé dans les régions en Anatolie, je pense qu'il y a peu de gens qui ont entre les mains, qui disposent d'Internet. Et donc, c'est quand même... ce genre de pétition est un outil Amazon Internet.
Vous, à titre personnel, donc, vous aviez ces liens avec Hrant Dink, et donc, quelque part, vous êtes un passeur entre les Turcs et Arméniens, et notamment à Marseille. Mais je ne crois pas que les réactions aient été unanimes. Et notamment, il y a, je crois, des controverses qui sont nées à propos de l'utilisation des termes, puisque dans cet appel, il y a grande catastrophe, il n'y a pas génocide. Cet acte honteux, si je prends la citation de Mustafa Kemal pour qualifier le génocide, qu'il ne qualifiait pas lui-même de génocide, bien sûr. Mais je fais référence au livre de l'historien Taner Akşam, Un acte honteux, le génocide arménien et la question de la responsabilité turque. Donc il me semble qu'il y a, à partir de cet appel, un certain nombre de déclarations assez vives, je crois, qui sont nées pour dire, mais au fond, vous n'allez pas jusqu'au bout puisque vous ne qualifiez pas cet acte de génocide. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Caillan, puis je demanderai ensuite à Genghis Akhtar ce qu'il en pense.
Vous savez, les Arméniens ont le complexe, veulent ressembler aux Juifs. Et donc disent nous, on a été le premier génocide du siècle, et on ne parle pas de génocide, mais on parle de grande catastrophe. Et la grande catastrophe, en hébreu, c'est la Shoah. Donc si on dit la Shoah pour ce qui s'est passé avec les Arméniens en 1915, je pense que l'opinion publique arménienne sera tout à fait satisfaite dans la mesure où...
On voit cette extrême sensibilité sur l'usage des mots. Hein.
Bah oui, si on disait que le terme de génocide n'existait pas en 1915, on vous répondra que oui, mais l'histoire avance, etc. Mais à mon avis, pour moi, c'est pas du tout ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'un jour, les livres d'histoire qu'on enseigne aux petits Turcs disent clairement qu'à partir du 24 avril 1915, il y a eu une volonté de l'Empire ottoman en train de mourir de se débarrasser de tous les Arméniens d'Anatolie. Une fois que ça se sera écrit dans les livres d'histoire, je considérerai que mon combat pour l'histoire et pour la vérité sera achevé.
Genghis Akhtar, alors qu'est-ce que vous pensez de la controverse qui est née à partir de cette déclaration ?
Je ne la considère pas comme une controverse. Bon, il y a eu beaucoup de réactions, en effet, comme vous le rappelez, à la fois de la diaspora, mais aussi de la part d'universitaires et d'activistes turcs. Pour l'emploi du terme en question, enfin du terme génocide, bon, pourquoi on l'a pas fait, etc. Moi, je pense, je voudrais développer rapidement autre chose.
Oui, je pense
la grande catastrophe signifie beaucoup pour l'Anatolie, parce que la grande catastrophe en question, c'est pas seulement le génocide des Arméniens ou la disparition des Arméniens, c'est aussi une grande catastrophe pour tous les peuples qui vivaient en Anatolie. Oui. Après tout, les Arméniens, c'était quoi ? C'était des producteurs. Enfin, la division travail, l'économie de l'Anatolie a été battue en brèche avec la disparition des Arméniens. Et des Assyriens, qu'il ne faut pas oublier entre-temps. Et les Grecs qui ont dû partir dans le cadre d'un échange de population avec la Grèce. Donc, il y a plein de, si vous voulez, de zones grises entre ce fait très froid qui est le génocide et ce qui a été vécu pendant et après en Anatolie. Tous les gens qui sont restés après, ben, il n'y avait plus rien. Il y a des Arméniens qui ont dû changer de religion.
Il y a des conversions de force,
oui,
effectivement.
Oui, tout à fait, pour vivre, pour survivre, en fait. Et il y a beaucoup de Turcs et de Kurdes qui ont sauvé les Arméniens. Une fois que les Arméniens étaient partis, la décadence anatolienne était quelque chose d'innommable. Il y a plusieurs romans qui évoquent ça. Donc la grande catastrophe, c'est vraiment une grande catastrophe anatolienne. Et en cela, c'est quelque chose que les Turcs et les Kurdes aujourd'hui pourraient comprendre beaucoup plus facilement, aisément, que le mot génocide.
Mmh. Et d'ailleurs, c'est un article que vous avez publié dans Agos, le journal de Randink, à ce sujet, pour défendre cette idée, de revendiquer cette idée oui, de grande catastrophe plutôt que de génocide, en disant que, au fond, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est quelque chose qui est, au fond, de l'ordre de la mémoire partagée. Mais pour revenir sur le point historique qu'évoquait Jean Cayan, sur les manuels d'histoire, sur l'histoire officielle, on en est encore bien loin, mais qu'est-ce que la formulation qu'exprimait Jean Cayan vous conviendrait?
Non, mais parfaitement, mais vous savez, moi je ne représente que moi-même, et puis on n'est pas très nombreux.
Mais
moi
aussi je ne représente que moi-même.
Mais c'est ça l'intérêt, justement. Hein. Donc, on est là pour parler de...
C'est ce que je veux dire par là, c'est que des gens qui pensent comme moi en Turquie, ils ne sont pas légion quand même. Mais le débat ne fait que commencer. Je peux vous signaler qu'à côté de cette initiative que nous avons lancée, eh bien, il y a une autre initiative de négationniste qui émane des autorités.
Qui émane des autorités, c'est-à-dire du gouvernement, de l'armée, de...
Qui émane des autorités, on ne sait pas exactement qui est derrière. Il y a un DVD qui circule dans les écoles primaires aujourd'hui. La fondation à laquelle j'appartiens, la fondation Randink, a lancé un procès contre X pour qu'on ramasse ces DVD. Il n'est même pas question de la disparition ou d'annihilation des Arméniens, il est question d'annihilation des Turcs par les Arméniens. Alors c'est vraiment... pour vous dire, oui. Avant d'arriver à cette petite phrase dans les livres...
Il y a encore bien du chemin à parcourir. Justement, puisqu'on parle d'histoire, donc je cite ce livre, Taner Akşam, qui j'imagine ne circule pas en Turquie, un acte honteux, publié chez De Noël. Il cite beaucoup de documents, et notamment un document de Morgenthau, qui était l'ambassadeur américain, qui parle d'une conversation avec Talat Pacha du 3 août 1915, et il dit ceci: « Talat m'a affirmé que le comité Union et Progrès avait soigneusement étudié l'affaire jusque dans le moindre détail et que la politique menée était celle qu'ils avaient officiellement adoptée. Il a ajouté que je ne devais pas imaginer que les déportations avaient été décidées à la va-vite. En réalité, elles étaient le fruit de délibérations prolongées et minutieuses. » Donc il semble que maintenant, au moins du côté des historiens, la question de l'acte volontaire et des programmés soit maintenant tout à fait clarifiée. Peut-être un dernier mot sur cet aspect historique, Jean Cayan, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu d'avenir et que, à partir de cette histoire et de cet acte de reconnaissance, parce qu'on ne peut pas inventer l'avenir sans reconnaissance du passé, mais que, bon, est-ce qu'il y a un dernier point de votre point de vue, vu sur le débat historique?
Moi, je pense qu'on est dans un début. Quelque chose est en train de commencer. Et que, naturellement, tous ces contre-manifestations qui se déroulent, ces tentatives qui se font, vont être de plus en plus ringardisées. On est arrivé maintenant où il y a une génération de gens qui disent « Tout le langage du passé ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant ?» Je pense à un livre comme celui de Fethiye Çetin, mais à beaucoup d'autres qui disent...
C'est quel livre, Fethiye Çetin ?
Le livre de ma grand-mère, où cette avocate... d'ailleurs qui a été l'avocate de Randink, elle est toujours son avocate, oui, qui sur le tard a découvert que ses grands-parents étaient arméniens. Donc en Anatolie, des exemples comme ça, il y y en a des dizaines de milliers, voilà. Et que dans la conscience...
Donc c'est bien l'acte de reconnaissance qui s'ouvre.
Absolument, et aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le discours du passé sont des gens dépassés et condamnés par l'histoire. Il y a des nouveautés dans la vie turque, en tout cas telle que je la ressens depuis ici, en téléphonant régulièrement aux collaborateurs du journal Agos, qui me font dire qu'il y a un passage qui a été franchi, il y a un tabou qui a été levé, et qu'on ne pourra plus revenir en arrière maintenant, surtout si on accepte, si les conditions sont réunies pour que la Turquie entre dans le concert européen de l'Union européenne.
Alors justement, Cengiz Akar, vous êtes venu aux rencontres d'Averroès, notamment pour parler de cette dimension-là. Dans le débat sur l'entrée de la Turquie, non pas en Europe, mais dans l'Union européenne, puisque la Turquie est en Europe depuis longtemps, la question justement des relations turco-arméniennes est une véritable pomme de discorde. Donc comment avance-t-on sur cette histoire? Comment on invente l'avenir et on ne se bloque pas uniquement sur le passé, sachant que les actes de reconnaissance ayant été accomplis? Cengiz Akar.
Structurellement parlant, le processus européen de la Turquie a été un catalyseur essentiel pour tout ce qui concerne les tabous avec lesquels on a pris l'habitude de vivre ici, n'est-ce pas ? Et le tabou arménien en est un, et peut-être c'est le tabou par excellence. Donc, sans l'Union européenne, sans la dynamique européenne, il n'y aurait jamais eu autant de débats, autant de discussions.
Et votre appel n'aurait même pas été possible.
Ah non, absolument pas. Tout comme d'ailleurs le questionnement par rapport aux problèmes kurdes, par rapport à tous les problèmes chroniques que
la place de l'armée dans la société turque
a hérité en fin de compte de la création presque imposée de l'État-nation à la fin du 19e siècle. Donc tout ça vient de là, il faut en parler, et on arrive à en parler maintenant structurellement, je répète, grâce à la dynamique européenne qui a créé une synergie inouïe avec la dynamique qui existait ici, parce que sans une dynamique interne, on peut rien faire non plus.
Alors donc, justement, dans cette...
Il faut impérativement que cette dynamique continue. C'est ça qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre en Europe.
Alors justement, juste pour que cette dynamique continue dans le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qu'en est-il des relations turco-arméniennes et comment aller de l'avant autour de cette question qui quand même est un facteur de blocage, et notamment dans des régions et dans des villes comme Marseille où la présence arménienne, franco-arménienne est extrêmement importante. Cengiz Akar.
Ah, vous savez, là, on arrive à s'occuper de ce qu'on a à s'occuper ici. Je ne sais pas comment la diaspora va évoluer par rapport
à ça. Non, je vais poser la question par rapport, effectivement, comment on fait avancer les choses, comment on fait avancer le débat.
C'est-à-dire que moi, à juger par les réactions comme celles de Jean Kehaian ou d'autres à Paris, des gens comme Claire Guidicenti, Serge Avedikian, Michel Marian, etc., qui ont lancé cette autre initiative de remerciement, et d'autres encore initiatives sont venues.
C'est quoi cette initiative de remerciement? On peut en dire quelques mots?
Il y a un texte qui s'appelle « Merci à cette campagne de pétition » qui est signée par de nombreux Arméniens à travers le monde, d'ailleurs.
Non, Atomé Goyan du Canada, le cinéaste.
Voilà. Donc, je pense que l'image du méchant turc qui ne peut faire que du mal est aussi un tabou qui a existé, il faut le reconnaître, est en train aussi de se lézarder, peut-être pas de disparaître complètement, mais c'est comme ça qu'on y arrivera. Je crois que il y aura dans les années à venir, dans les mois à venir. Par exemple, cette année, eh bien, c'est le centenaire des massacres d'Adana. Hein, en 1909, eh bien, il y aura des colloques sur ce qui s'est passé. On ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Il y en aura d'autres après. On commence à en parler, on commence à questionner ce qui s'est vraiment passé. Et c'est comme ça qu'on avancera. Je pense que la diaspora, en particulier en Europe, a un rôle à jouer, parce que sans elle, tout comme la diaspora américaine, à la fois nord et sud, eh bien, et sans elle, sans un fléchissement de la diaspora, on n'y arrivera pas. Parce que...
Alors justement, Jean Kéhayan, ici à Marseille, est membre éminent de cette diaspora. Comment est-ce qu'on peut inventer l'avenir de ces relations turco-arméniennes ?
Je crois qu'un des arguments qui touche le plus les Arméniens, même s'ils ne veulent pas reconnaître, discuter avec les Turcs, c'est de dire si la Turquie est membre de l'Union européenne, la petite Arménie telle qu'elle existe aujourd'hui aura des frontières communes avec la Turquie, et en ce sens, elle pourra se sortir du piège de l'enfermement dans lequel elle est, où sa seule voie de sortie, c'est l'Iran. Et donc, cet argument-là commence à faire son chemin, et se dire, en effet, si demain, la route et le train qui relie Gomri à Kars s'ouvrent, qui sont deux sœurs voisines, qui est à 30 kilomètres, et je suis allé dans les deux, et c'est vrai que c'est deux villes qui se ressemblent étonnamment, eh bien, je crois que cet argument-là est en train de faire son chemin. Les Arméniens de la diaspora qui sont tous d'origine anatolienne et non pas caucasienne, sont en train de comprendre que le sauvetage de cette petite Arménie qui leur tient à cœur passe aussi par l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Alors c'est peut-être aussi d'ailleurs un débat qui a eu lieu entre la Turquie et la Grèce. Longtemps, la Grèce a été opposée à l'entrée de la candidature de l'adhésion de la Turquie. Et puis, beaucoup de Grecs ont fini par comprendre que la meilleure façon de sécuriser les frontières et de rendre la guerre impossible avec la Turquie, ce serait que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Donc si ce débat chemine également avec l'Arménie, ce serait de bon aloi. Cengiz Aktar et Jean Kayan, merci beaucoup. On a commencé ce débat turco-arménien. Je pense qu'il sera amené à se prolonger à Marseille, en tout cas à travers la pensée de midi. Nous aimerions bien créer les conditions de ce débat pour à partir des actes de reconnaissance, créer les conditions d'inventer l'avenir de ces relations entre ces deux peuples. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Rendez-vous de midi, musique, littérature, débat d'idées. Au rendez-vous de midi, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi, une émission proposée et présentée par Thierry Fabre. Au sommaire de cette édition, un parti littéraire avec une histoire de la NRF et un appel de la revue Esprit et une évocation de l'œuvre de W.G. Sebald, grand écrivain allemand. Un rendez-vous musical avec le groupe Kardeş Türküler, à qui on doit d'ailleurs le générique de cette émission, autour de deux chansons en arménien, prélude au débat entre Cengiz Aktar, universitaire, membre de la fondation Randink, et depuis Istanbul, et Jean Kayan, bien connu à Marseille, écrivain, éditorialiste, débatteur, autour des relations turco-arméniennes. Au rendez-vous de midi, une émission à écouter chaque mois qui cherche à partir de Marseille d'ouvrir le débat d'idées vers le monde méditerranéen.